Dans le cadre du festival Ubergang qui s'est déroulé en avril 2024 à l'atelier Média de Carvin dans les Hauts-de-France, découvrez la lecture de Mémoires de femmes rurales de Jessica Rivière, un texte lauréat de l'aide nationale à la création de textes dramatiques, avec Jessica Rivière et Valentin Hector.
Scène 1. Vidéo. Un plan projeté d'une route de campagne qui défile depuis l'intérieur d'une voiture. La voiture s'arrête. Claquement de porte. Titre projeté. 5 juin 2021.
Scène 2. Intérieur jour. Réunion Vexin-sur-Aix. Sur scène, des femmes. Sylvie, Thérèse et Simone, et un homme, Bernard, arrivent. Les femmes s'assoient sur des chaises en demi-cercle face publique. Elles papotent entre elles. L'homme prépare des collations sur une table. Une personne, Violette, arrive en courant depuis le public, avec un sac à dos et un micro-enregistreur. Elle installe rapidement son micro face aux femmes.
Bonjour.
Bonjour.
Merci de m'accueillir parmi vous aujourd'hui.
De rien, prenez place. Alors, vous m'excuserez, mais je vais commencer par faire un point sur les prochains rendez-vous associatifs.
Maryse arrive en courant sur scène, elle est en retard. Elle fait tomber ses dossiers et disperse des papiers un peu partout sur le sol.
Tu lui sers un café, Bernard, s'il te plaît?
Mais bien sûr. Avec sucre ou sans sucre?
Sans sucre, merci.
Plutôt grand ou petit, le mug?
Plutôt grand.
Dimanche 12 juin, église de Tourny, 16h. Concert au profit de la restauration de l'église. Et le 28 mars, nous recevrons Monsieur Roland Boulard, qui viendra nous conter son périple Saint-Marcel, le Mont-Saint-Michel. Ce monsieur est malvoyant, donc il vous parlera de son parcours, qui est loin d'être inintéressant. Voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? D'ici le mois d'avril, il faudrait que j'imprime correctement le calendrier des manifestations de VSE. Oui, bon, enfin, on a quand même un petit carnet qui est distribué dans les boîtes aux lettres, où on a quand même tout ce qui est un rappel des événements, voilà.
Elle a raison.
Oui, elle a raison. Voilà, donc le 28 mars, vous êtes tous invités à cette réunion.
Toutes?
Non, tous. Il y a un homme parmi nous, hein. Même s'il préfère être en retrait, il est là.
Tous les regards se posent sur Bernard.
C'est mon mari. Ah. Voilà. Bon, maintenant je vais laisser la place à Madame Violette. À vous de...
De me présenter d'abord, avec plaisir. Pour faire court, je travaille pour une compagnie de théâtre basée à Vernon depuis peu. On était d'Alençon avant.
Oh, l'Orne, c'est encore la Normandie.
Oui.
Nous sommes très régionales. Hein. Ah. Sonnerie du brame du cerf.
Une vache parmi nous?
Un cerf.
Ah, un cerf.
Le brame du cerf.
Sylvie essaie d'arrêter la sonnerie et elle n'y arrive pas.
Sylvie, on avait dit sur silencieux les téléphones. Oui, je sais, mais j'ai changé de téléphone et mon petit-fils, il a trafiqué tous les boutons et là je suis un peu perdu. Hein.
Thérèse, qui est assise à ses côtés, éteint le téléphone de Sylvie et le met dans son sac. Maryse a sorti un carnet et un stylo pour prendre des notes.
Bon, continuez.
Je mène un projet d'écriture de territoire sur les femmes en ruralité. Et je rencontre des femmes sur les communes de Vexin-sur-Epte, d'Oulbeck-Cocherel et des Andelys qui souhaitent me parler de leur rapport à la terre. Je m'interroge aussi sur la place des agricultrices en milieu rural. Elles sont de plus en plus nombreuses à exercer ce métier et pourtant invisibilisées, je trouve, dans un métier que l'on considère encore aujourd'hui comme masculin. Et pourquoi ? Maryse tente d'écrire mot pour mot la parole de Violette. Elle n'arrive pas à suivre le discours et sa prise de notes. Elle est perdue.
Il y a des choses à dire, c'est sûr.
Oui, et de s'interroger sur le regard qu'on leur porte. En questionnant plusieurs personnes...
Maryse se remet à écrire, Bernard fait des pyramides de gobelets sur la table avec minutie.
Il y a une constante qui revient. C'est la considération qu'elles ne sont pas tout à fait des hommes ni tout à fait des femmes. Il se dégage un statut presque intermédiaire pour ces femmes que j'ai envie de questionner.
Toutes les femmes se regardent Violette de manière perplexe.
Je ne sais pas si on pourra traiter tout ça en 2 heures. Hein.
Ah.
Et tes questions, c'est quoi ?
On pourrait commencer par pourquoi faire le choix de la ruralité ? Quelle est la place des femmes en milieu rural dans la société ? Est-ce que les inégalités pour les femmes sont plus fortes qu'en ville ? Quel combat à mener encore pour les femmes au XXIe siècle, d'après votre expérience personnelle ? Ça, c'est très important que vous me répondiez d'après votre vécu, car chaque réponse va amener de nouvelles problématiques, soulever d'autres perspectives.
Maryse, laisse tomber son stylo. Oui, tu veux de l'authentique, quoi, du cru ?
Oui, c'est cela. Et ne vous inquiétez pas, je n'utiliserai pas votre identité. Si vous me l'autorisez, j'aimerais recueillir et reprendre certaines de vos paroles pour nourrir des personnages fictifs, bien sûr.
Ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas s'il y a des gens de vraiment rural, quoi. Ah. Le problème, c'est, est-ce qu'on est vraiment rural, quoi ? Oh bah, il y a Geneviève de rural. Oh oui, oh oui, Geneviève, elle est vraiment rurale. Hein.
Après, comme je vous l'ai dit, je me pose la question de pourquoi vivre en ruralité. Et cette chose-là, j'imagine qu'elle vous concerne toutes, tous, non ?
Oui, tu veux savoir pourquoi on est toutes arrivées dans un milieu rural, quoi ?
Oui.
Bah, faudrait peut-être savoir ce que tu entends par ruralité. Ah, peut-être qu'il faudrait commencer par là, définir ce mot.
C'est juste. Disons que la ruralité, ce serait le contraire de ce qui est urbain.
Oui, ce qui n'est pas urbain, ce qui n'est pas la ville, quoi. Bah, la campagne.
Oui, voilà.
Bah... Pour l'espace, la tranquillité. On a une petite maison, un jardin. On peut avoir des animaux, un potager, des fleurs, enfin ce qu'on veut. On peut mettre les mains dans la terre. Moi, j'aime mettre les mains dans la terre. Et je ne faisais pas ça avant. C'est agréable le matin d'entendre les oiseaux. Non, et puis surtout, c'est une question de prix. Hein. Dans l'heure, c'est pas trop cher, mais vous allez dans le 95, c'est beaucoup plus cher, c'est incroyable. Hein. L'écart, c'est... Mon petit-fils, il a vendu sa maison pour 300 000 francs. Euros. Oui, 300 000 euros. Les prix ont augmenté.
Est-ce que vous avez toutes et tous vécu ici depuis l'enfance ?
Oh bah oui, depuis combien de temps que t'es là, toi ? Moi, je compte plus. Moi, ça va me faire mal à la tête. Hein. Officiellement, plus de 30 ans. 15 ans ! Oh bah, moi, j'ai toujours vécu là. Hein. Mais t'es dans le menu court, toi ? Oui ? Bah, c'est pas en Normandie. Oui, enfin, c'est tout près. Bah, c'est pas en Normandie.
Noir, les femmes et l'homme disparaissent en coulisses.
Scène 3. Violette récupère son micro-enregistreur et son sac à dos et s'en va.
C'est comme cela que tout a commencé. Par une liste de noms et de prénoms de femmes que je ne connaissais pas. Certaines avaient demandé à me rencontrer via un formulaire distribué par les communes partenaires du projet. D'autres ignoraient tout de ma démarche et étaient parfois stupéfaites de mon appel.
Des femmes la rejoignent. Mais vous êtes qui, vous ? Vous faites des statistiques, non ?
Ah non. Non, non, non.
Prendre un café chez moi, je ne sais pas. À 9h ? C'est extrêmement tôt.
On m'avait pour la plupart donné leurs numéros, rien de plus. Des noms avec des numéros sur un tableau Excel. Et parfois, il y avait une ligne sur leur vie. Statut, nombre d'enfants, difficulté à se déplacer, une note à Béné. Ne parle qu'en présence de Madame Intel. Je les ai toutes appelées. On fixait un rendez-vous pour une heure d'entretien, chez elle, la plupart du temps. On buvait un café, une verveine menthe, une tisane détox bio, jamais d'alcool. Et puis, tout en commençant à parler, je branchais mon micro. On se regardait droit dans les yeux. Il y avait quelque chose de presque solennel en début d'entretien, une maladresse touchante de première rencontre. Et à mesure que nos voix emplissaient l'espace, que nos mots retapissaient les papiers peints rustiques, une certaine magie opérait. Elles me livraient leur vie sans pudeur et j'avais l'impression de les connaître depuis toujours. D'être tour à tour tantôt l'ami, la fille ou la petite fille à qui on voulait transmettre un bout de son histoire. Date projetée, 12 octobre 2021. La femme B. Je crois qu'il n'y a pas de plus grande liberté qu'être en campagne. Se poser dans un champ, en forêt, pas de route, pas de gens autour de toi. Le bonheur. Personne pour te juger, pas d'agressivité, le calme. Et cet apaisement que te donne la nature. Le vent, le bruit des feuilles dans les arbres, les oiseaux qui chantent. Tu te sens pas plante, toi ? Comme une plante, je veux dire.
Date projetée, 16 septembre 2021. La femme D. Moi, je pense qu'en campagne, les gens sont beaucoup plus arrêtés sur le genre. Hein. Il y a des choses pour les femmes, d'autres pour les hommes. Et c'est mieux comme ça. Hein. Bon, la femme en voiture, par exemple. Je ne subis plus. Mais avant, je subissais. Hein. Ah bah ça, bah voilà, c'est encore une femme qui conduit. Pas la classique, quoi, des remarques sexistes avant d'amorcer un créneau. Oh là là là, ça sent la catastrophe ! Et j'en passe.
Date projetée, 6 septembre 2021.
Je vais vous en raconter, hein. Vous le mettrez ou vous le mettrez pas, coupé, comme il y en a qui disent. Les inégalités pour les femmes, elles existent au sein de la société, mais elles sont démultipliées en ruralité. Je vais vous parler comme à une fille. J'ai une petite fille de 37 ans, vous voyez donc, bref. Une jeune femme qui... Je vais pas tourner autour du pot. Qui voulait avoir du plaisir. Bah, c'était pas possible. Enfin, c'était possible. Si elle se laissait aller à la bonne période. Je suis peut-être un peu directe. Bon, elle a pas de chance. Paf, enceinte. Paf le chien, comme on dit. C'est pas pif, c'est paf le chien. Donc, que faire? On a un petit logement, le mari a une profession, mais on a deux enfants. Non, mais qu'est-ce qu'on fait? On a une petite voiture, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, à cette époque-là, la solution, c'était les faiseuses d'anges. Pour moi, l'évolution des femmes, c'est le compte chèque, le compte en banque, l'indépendance financière, la pilule. Il y avait peu de femmes qui l'avaient. Non, mais... Merci, Madame Veil, pour le droit à l'avortement sans risquer sa peau. Parce que vous allez voir quelqu'un, une faiseuse d'anges gentille comme tout, hein, mais qui va vous prendre un max. Et vous savez plus où aller. Bon, après, je lui ai dit. Il n'était pas trop content, mais c'était comme ça. C'était mon corps. Mais vous avez peur de savoir comment ça va se passer. On joue avec notre vie, hein. Moi, j'avais deux enfants.
Date projetée, 27 novembre 2021, la femme G. Quand on parle de la ruralité, on visualise une carte postale, image d'Épinal. La terre, les vaches, l'herbe verte, la laitière impeccable et son pot à lait. Cela n'a rien à voir. Ah, je ne critiquerai pas l'endroit d'où je viens parce qu'il a fait de moi ce que je suis. Mais la réalité est bien plus dure. Dans une ferme, tu ne comptes pas ton temps de travail. Tu ne connais pas le mot repos. Tu es totalement dévoué à la terre et si tu es mère... Tu divises ton temps en deux, entre la terre et les enfants. Il n'y a pas de place pour vivre autre chose. Tu manques de temps, tu manques d'argent. Il est peut-être là, mon regret aujourd'hui, de ne pas avoir pu prendre le temps.
Toutes les femmes disparaissent. Changement de lumière.
Scène 4, intérieur jour, appartement de Violette. 9 juin 2021. On entend la radio. Violette rassemble des feuilles et les trie sur une table, son père la regarde.
Que ce soit en matière d'emploi, de mobilité, d'accès aux soins ou à la justice, dans le cas des victimes de violences conjugales, les femmes sont les grandes oubliées en milieu rural. Une mission d'information du CEDA liste 70 propositions et appelle le gouvernement à prendre en compte ces enjeux.
Mais dans quoi tu t'es embarquée encore?
Je ne sais pas trop. J'accumule la matière, je classe, je trie selon les thèmes abordés.
C'est expérimental comme démarche?
Participatif, papa. Ce qui est passionnant, c'est de voir que sur certains sujets, les ressentis ou les anecdotes sont les mêmes.
Les mêmes?
Quasiment les mêmes, pour des femmes d'âge et de milieux sociaux différents.
J'imagine que tu n'as pas croisé beaucoup de bourgeoises. Hein.
Regarde-la. Mireille Manet, 73 ans. Elle a toujours vécu ici et ne changerait pour rien au monde de région. Elle a épousé un agriculteur à 19 ans et elle a co-géré une exploitation toute sa vie sans l'avoir choisie au début. Idem pour Aurélie, 34 ans, qui vit avec Hugo Céréalier, avec qui elle a eu 4 enfants. Et pour Charline, 42 ans, qui a rejoint Mathieu, 48 ans, arboriculteur. Elles avaient tout un métier en ville qu'elles ont quitté. Sténodactylo, institutrice, journaliste.
Oui, ben, le point d'ancrage à la terre, c'est l'amour.
Elles sont tombées amoureuses d'un homme qui aimait la terre. C'est une première piste dans l'écriture.
Et à quoi tu penses?
Je dois trouver l'articulation entre tous ces témoignages. Le fil qui me guide d'une parole à une autre.
Je te pose une question.
Vas-y.
Est-ce qu'il y a une femme qui se détache des autres? Je veux dire... Un parcours qui pourrait être l'ossature entre les témoignages. Autre chose. Pourquoi tu t'es lancée dans ce projet? Qu'est-ce qui résonne en toi? Qu'y a-t-il à explorer dans la ruralité qui ne pourrait pas être exploré ailleurs?
Il y a pas mal de choses que j'ignore. Je me demande avec ce projet si le plus important n'est pas l'expérience du processus de création. Cette écriture du réel qui se fait pas à pas plutôt que la finalité. Et c'est la première fois que je ressens cela. Il ne faut pas le nier, je le pense. Peut-être l'assumer même. J'ai cette citation en tête qui ne me lâche pas. Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais toujours le chemin parcouru, et les détours surtout.
C'est de qui?
Violette qui regarde sur son téléphone. Philippe Paulet-Villard. Ne me demande pas qui c'est.
Alors je t'en donne une autre. L'obstination est le chemin de la réussite. Charlie Chaplin.
Noir.
Scène 5. Vidéo, un plan projeté d'une route de campagne qui défile depuis l'intérieur d'une voiture. On entend en fond sonore la radio durant la vidéo.
Radio, une journaliste. La journée internationale de la femme rurale, c'est le 15 octobre. Est-ce qu'on célèbre vraiment cette journée, Aurélien ?
Eh non, malheureusement, et comme beaucoup de journées internationales, puisque l'Organisation des Nations Unies prévoit chaque année plus de 140 journées mondiales, ou internationales. Et on fête à peu près tout.
Ah oui ? Des exemples ?
Oui. Alors, je rappelle juste avant le principe. Dédier une journée dans l'année à un thème pour attirer l'attention et l'intérêt sur son sujet. Parmi les plus méconnus, 6 février, journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. 8 février, journée mondiale sans téléphone portable. 10 février, journée internationale de la des légumineuses. 27 février, journée internationale de l'ours polaire. 11 mars, journée mondiale de la plomberie. 25 mars, journée mondiale de la procrastination. 7 mai, journée internationale de la masturbation.
La voiture s'arrête. Une averse tombe d'un coup. Violette quitte la voiture. Et merde, la Normandie. Claquement de porte, date projetée, 20 juin 2021.
Scène 6. Intérieur jour, devant la maison de Mireille. Violette est trempée. Elle s'approche de la maison. Une femme la regarde par la fenêtre.
Mireille. Ma pauvre, vous êtes mal fagotée. Il y a des jours comme ça. Je suis embêtée et je viens de faire le ménage. Vous avez essuyé vos pieds ? Non, mais je peux retirer mes chaussures si vous voulez. Je préfère. Violette en retirant ses chaussures. On dirait le début d'un film romantique. Faites attention, vous allez vouloir m'épouser. C'est de l'humour, ça ? Oui. Je ne donne pas trop dans l'humour, moi. D'accord.
Violette s'approche de Mireille pour rentrer dans la maison. Elle l'arrête. Mireille montrant le paillasson.
Là, restez là. Je vais vous chercher une serviette.
Violette fait tomber son carnet de feuilles sur le sol humide.
Oh, et merde !
Mireille en revenant avec une serviette.
Tu n'as pas l'air très adroite comme fille. Je ne te propose pas de t'aider, mes genoux me font mal. Ça me tire de partout, je devrais me faire opérer, mais je ne le fais pas. Pourquoi ? Pourquoi ? Tu en poses de ces questions ? Parce que j'ai peur de souffrir ? Parce que je crains de plus marcher ? Parce que j'ai besoin de marcher aujourd'hui plus qu'hier. Parce que je n'ai pas le temps, parce que je n'ai pas d'argent.
Violette rentre dans la maison de Mireille. Elle s'assoit face à elle et sort son sac, un carnet et un stylo. Mireille regarde agacée les chaussures de Violette qui sont restées sur son paillasson.
Voix off de Violette. Il y a des personnes, on ne se l'explique pas, elles font sens. Tu les rencontres et tu sais immédiatement face à elles que tu vas traverser un moment singulier.
Mireille va essuyer les chaussures sur le paillasson.
Une fulgurance que tu pressens, sans pouvoir la décrire. Il y a à son contact tout un monde qui éclot, qui donne accès à une réalité au-delà du visible. Chaque interaction, chaque mouvement que vous dessinez ensemble ou séparément a quelque chose de familier et vous rapproche imperceptiblement de l'autre comme un aimant.
Mireille qui range les chaussures de Violette.
Tu vas écrire tout ça, cette liste de parce que ? Oui, je suis en train de le noter, tu vois. On se tutoie, on se vouvoie. Moi, j'ai beaucoup de mal à tutoyer, mais on va y aller. De toute façon, je n'ai pas eu trop de choix. Il m'a dit de participer, lui.
Elle montre la photo d'un homme dans un cadre.
J'ai eu une discussion mardi dernier avec Monique de Ray. Monique de Ray ? Connais pas. Sur la grêle qui est tombée en juillet 2013. Le 26 juillet 2013 à 21h. C'est ça. Donc, on va peut-être commencer par parler de ce sujet parce qu'il m'intéresse. Alors, on va en parler, mais pas trop fort. Parce qu'il faudrait pas que ça nous retombe dessus. Pour nous, le mot grêle, c'est à bannir. Faut que je te raconte ma vie ? C'est ça ton jeu ? Tu commences où tu veux. Bien. Alors moi, je suis issue d'une famille d'industrie. Mon père était dans l'industrie et maman mère au foyer. J'ai vécu à Maigny, pas loin, mais pas du tout dans le milieu de l'agriculture. Du tout. Hein. Sauf les grands-parents paternels. Ils avaient une petite ferme dans le Morbihan. J'ai suivi des études jusqu'en troisième. Puis je suis partie sur Paris où j'ai été embauchée comme jeune fille au père. J'avais quelques permissions pour rentrer le week-end voir ma famille. En juin 83, j'ai connu mon mari sur une foire à tout dans la région. Ça a été le coup de foudre, comme on dit. J'ai tout arrêté et je l'ai suivi. Il travaillait à la fois comme céréalier et comme arboriculteur en tant que salarié, sur le terrain que tu vois là. Ça ne nous appartenait pas encore.
Scène 7, intérieur maison et extérieur jour, espace verger. Juin 1983. Mireille et Violette regardent par la fenêtre de la maison le verger. Pendant le récit de Mireille, le spectateur découvre dans cet espace une femme en robe de mariée, tenant un homme par le bras en costume. Ils sont très élégants, mais ils ont de grandes bottes de ferme. Autour d'eux arrivent les trois enfants, Mathias, Mathieu et Marie. Ils tournent autour du couple,
se lance de la terre, se chamaille.
Tout est allé très vite. Le mariage, la naissance de nos trois enfants, Mathias, Mathieu et Marie. On est la famille M. Je m'appelle Mireille, mon mari Marcel, nom de famille Maillard, c'est pour te dire. Le propriétaire du terrain, il a voulu vendre dans la foulée. On s'est lancé dans l'aventure. C'était la suite logique de notre histoire. Mon mari conservait son poste tout en devenant patron, et moi je l'aidais main dans la main. On était heureux.
Maman, Mathieu m'a piqué mon bâton, il veut plus me le rendre.
Il était à moi, je l'ai vu en premier.
Ce n'est rien.
Comme dit toujours Mathias, tout est meilleur
partagé.
Noir sur l'espace verger. On a supprimé toute la partie céréale pour se concentrer uniquement sur le verger, poirier et pommier. Les enfants participaient à toutes les tâches. Date projetée, octobre 91. Lumière sur le verger, Mireille jeune et Marcel jeune prennent des pioches et des pelles et en distribuent aux enfants Mathias, Marie et Mathieu.
Creuse plus profondément, Mathias. Il faut ameublir la terre à l'endroit de la plantation. Je fais comme je peux. Un mètre de côté et un mètre en profondeur.
On ne met pas les vers de terre à la bouche, Mathieu.
Berk, t'es dégoûtant. Bon,
Marie, va jouer avec ton frère là-bas.
Mais moi aussi, je voulais le faire.
J'ai besoin de toi pour t'occuper de ton frère. Tu le feras demain, promis.
C'est pas juste.
Marie va surveiller Mathieu, qui met tout ce qu'il trouve au sol dans sa bouche.
Après, tu pioches sur une trentaine de centimètres. Tiens, regarde, comme ça.
Il s'est posé à côté de lui pour lui montrer. Mathias regarde.
Tu vois le geste? Et on va en planter beaucoup? Jusque là-bas. C'est la partie la plus dure. Après, on met le fumier et on mélange à la pelle bêche avec la terre au fond du trou.
Papa, ça fouette!
Comme un sorcier. Oui, pareil. Et on va laisser ça comme ça.
Maman, Mathieu mange des fourmis!
Et on plantera quand? Dans un mois.
Noir sur l'espace verger. Maintenant, on peut parler du 26 juillet 2013. On va remonter un peu dans le temps, si tu veux bien, quand mon plus jeune fils est revenu à la maison.
Mathieu arrive à jardin depuis le public. Il reste un temps de dos, il a une valise à la main.
Regarde, il est là, il attend. Noir sur l'espace maison. Scène 8, extérieur nuit, devant la maison de Mireille. 15 juillet 2013, un homme regarde Mathieu depuis le verger.
Il est revenu, le baroudeur! Allez, dans mes bras!
Il s'enlace.
Un crâne d'œuf!
Respecte un peu ton aîné, hein. Et ou sinon, petit con.
Une jeune femme les voit au loin, elle court vers eux.
J'y croyais pas, je voulais pas le croire! Mathieu!
Il s'enlace.
Ah, ça fait du bien de te voir, tu sais.
Je sais. Mais regarde-moi cette désinvolture de petit con.
Soudainement, Marie s'éloigne.
Il s'est passé tellement de choses ici, et toi, tu as pris la fuite comme ça, du jour au lendemain. Où est Mathieu? Pas un message, un mot, une lettre. Moi, ça me fait mal, mais ce n'est rien, je ne suis rien, moi. Mais maman...
Marie, laisse-moi t'expliquer.
Tu m'as laissé toute seule à tout gérer, là, ton départ, la ferme.
Mais j'étais pas prêt à...
À vivre cela? Mais moi non plus. Mais je n'ai pas eu le choix, moi, d'être égoïste comme toi.
Allez, calme-toi, Marie, ce n'est pas le moment.
Il y a eu Mathias, heureusement.
Mais je fais tout de travers, tu le sais. Je suis con et lâche, hein. Alors vas-y, si t'as envie, si t'as besoin de m'en envoyer plein la gueule, vas-y, c'est le moment, là.
Ils boutent chacun de leur côté. Une lumière dans la maison fait apparaître Mireille,
oui,
qui
maman.
Caresse la joue de Marcel, immobile dans son fauteuil roulant.
Où est maman? Dans la chambre, à veiller papa. Et papa, comment va-t-il?
Il reste au lit toute la journée, il ne mange plus, il parle peu, très peu. Mireille depuis la maison.
Oh! Mathieu est arrivé.
Bon, on reparlera de tout ça demain. Et Marie, là, sèche tes larmes. S'il te plaît, si maman te voit, avec les yeux enflés, elle va avoir encore plus de peine. Tu ne veux pas faire davantage de peine à maman, non?
Non.
Et toi, Mathieu, oh, enlève cette tête de déterré, tu veux bien? Ah, moi, je fais la même tête que Marie, hein. Pas pire, pas mieux. Hein. Ouais, vous allez arrêter de vous disputer, là, comme des gosses? Ça m'avait pas manqué, vos jérémiades, hein?
Mireille sort de la maison. Oh, on n'attendait plus que toi pour dîner. Tu aurais pu m'appeler ou m'envoyer un message. Je me suis fait du souci, comme d'habitude.
Mais la route était longue. Je pensais arriver plus tôt.
C'est bien que tu sois là pour ton père.
Mais je suis aussi là pour ma mère.
Espèce de faillot.
Mathias reprend sa sœur du regard.
J'espère bien. Qu'est-ce qu'il y a, Marie? Rien. Une petite allergie au pollen, c'est tout.
De mon temps, on savait mieux mentir. Vous vous êtes chamaillés encore tous les deux.
Non.
Ils vont me donner encore du souci, ces deux-là. Je fais comme si je n'avais rien vu. Tu verras ton père tout à l'heure. Hein, il se repose. Allez à table. Passé 20h, je n'ai plus de patience si je n'ai rien avalé.
Tu veux que je mette la table?
Je l'ai déjà fait.
Ils rentrent tous à l'intérieur de la maison. La télévision est allumée. Scène 9, intérieur maison du verger, dans la maison du verger. Ils s'installent autour de la table. Mireille apporte le pain, le vin, le sel et le poivre, une soupière et une louche.
Voix du présentateur de l'émission de télévision. Il n'y a pas d'âge pour trouver l'âme sœur, surtout avec Internet pour refaire sa vie. Ou tout simplement tromper la solitude. Les seniors sont de plus en plus nombreux à s'inscrire sur les sites de rencontres. Les produits web ont su s'adapter à cette nouvelle clientèle. Anne-Laura Dubois, Jean-Charles Guichard. Ah, ça c'est pour Mathias.
Maman,
bon, t'es toujours célibataire, toi. Et Sandra Gourdin?
Sandra Gourdin, c'est au lycée.
Oh là là, je me souviens, vous étiez toujours collés l'un et l'autre. Et que je te tiens la main par-ci, et que je te touche les cheveux par-là.
C'est devenu presque un rituel pour Eliane, 59 ans, tous les matins, consulter les nouveaux messages de ses prétendants.
Ah, je me rappelle. Oh, c'était pas un nez qu'elle avait, c'était un panard sur le visage. Je me suis toujours demandé comment vous faisiez pour... Allez, ça recommence.
Oh, mon blague, mon blague.
Donne-moi ton assiette, une ou deux louches. Une, juste une.
Elle s'est mariée avec un Écossais, figure-toi.
Une ou deux louches.
Quatre enfants, un chien. J'ai vu ça sur Facebook. Une louche, s'il te plaît, maman. Tu te connectes, toi? Petit con. Elle te manque? Simple curiosité, hein.
Exit était dansant. Aujourd'hui, la drague pour les seniors, ça se passe sur Internet. Trouvez l'amour. Voilà le slogan des sites spécialisés qui se sont mis à faire de l'œil à cette nouvelle clientèle. Il n'y a pas d'âge pour faire des rencontres. Après une première vie, on peut encore séduire. Et pourquoi tu t'inscrirais pas sur ce site Internet dont il parle à la télé?
C'est pour les seniors.
Pour les agriculteurs, il y a une émission. L'amour est dans le pré. C'est Gisèle Guyot qui m'en a parlé sur le marché. Elle m'a dit, j'ai pensé à ton grand.
Excusez-moi, est-ce que je vous ai demandé quelque chose?
Des nomades arrivent près du verger. Ils ont des couches d'habits, des baluchons et des valises. Ils chantent dans une langue étrangère en se rejoignant. Et chaque voix fait écho à une autre. Ils se rejoignent, s'étreignent. En simultané, la famille à l'intérieur de la maison se souhaite bonne nuit. Mathias s'en va en traversant le verger. Mireille le raccompagne et lui fait un signe d'au revoir dans le verger. Quand Mathias disparaît, Mireille allume une cigarette et pleure. Mathieu apparaît dans l'entrebâillement de la porte de la maison. Il regarde le groupe des gens du voyage qui chantent, intrigués. Dès que Mireille le voit, elle éteint sa cigarette et rentre discrètement dans la maison. Le groupe s'installe dans une caravane. Mathieu est subjugué par une jeune femme du groupe. Elle sent sa présence, se retourne et le regarde aussi. Noir. Scène 10. Extérieur jour, devant la maison de Mireille. Date projetée, 16 juillet 2013. Mathieu sort de la maison et récite un poème heureux pendant que Marie et Mireille s'affairent à mettre la table dehors pour prendre le petit déjeuner.
Soleil! Pourquoi te lèves-tu si tard? Et pourquoi as-tu l'œil si rouge? As-tu fait cette nuit un cauchemar qui t'a fait pleurer dans ton sommeil? Ni sommeil, ni rêve, ni bon, ni mauvais. J'ai veillé toute la nuit, tandis que l'Occident frivole dormait sur les cendres grises de ses lauriers. Et j'ai fait le tour de la terre.
Le coq élevé.
Et j'ai vu des gens mourir de faim. J'ai vu des gens mourir de froid. J'ai vu des gens mourir de désespoir.
Mais tu n'aurais pas quelque chose de plus gai en stock?
Mireille qui prend un journal et lit à haute voix. Avis de décès, Gertrude Bonamy, 45 ans, connais pas. Jacqueline Fayard, 92 ans. Marie repart en cuisine dépitée. Bernard Dosier, c'est l'ancien qui tenait l'épicerie, non? On le mettra à la poubelle, je ne veux pas que votre père voit ça. Hein. Marie revient avec un plateau, thé, café, pain, beurre et le pose sur la table.
Bon, je m'en occupe, maman. Marie, tu peux m'aider à porter papa?
Pourquoi faire?
Bah, pour qu'il déjeune avec nous.
Non.
Non?
Laisse-le se reposer. Ce n'est plus le même homme, Mathieu. Bah, on a pour habitude de lui emmener le petit déjeuner au lit. On lui allume la télé dans la chambre. On lui laisse du temps. Il lui en faut beaucoup le matin pour être avec nous. Il a des absences. Et puis se lever lui demande de grands efforts. Il a honte, alors il peste et il bougonne. Il dit des choses qu'il ne pense pas aussi. Tu n'es pas habitué.
J'attends 9h et je vais le chercher pour sa vitamine D.
Tu es têtu. Il aurait besoin d'une femme, celui-là aussi. Hein. Ça lui apprendrait un peu la patience. Parce que les femmes sont quoi, maman? La patience d'être à deux, Marie. Le couple, les concessions, les partages de décisions ne démarrent pas au quart de tour.
Oui, garde de l'énergie. On n'est qu'au début de la journée, Marie.
Tiens, je me demandais s'ils allaient revenir, ceux-là.
Qui?
Bah, les autres, là, là. Tourne la tête. Non, mais discrètement aussi.
Un homme sort de la caravane.
Bonjour.
Bonjour. L'homme commence à faire des étirements et des positions de yoga.
L'année dernière, ils ont supprimé l'aire d'accueil aux gens du voyage, dans le centre de la commune. Et une caravane s'est plantée là, dans le champ, avec des gens dedans. Ils viennent pour une célébration religieuse ou je ne sais quoi.
Et le propriétaire, il est au courant?
Ah bah, je n'en sais rien. Je connaissais l'ancien propriétaire. Et puis, si ce sont les mêmes que la dernière fois, ils étaient plutôt calmes, je m'en mêle pas.
Qu'est-ce qu'il fait? On dirait de la danse, non?
Ah non, mais les commères, L'homme qui se sent observé tourne sa tête vers Mireille, Marie et Mathieu. Marie repart très vite en cuisine et Mireille met la tête dans son journal. L'homme repart dans la caravane, arrivé de Mathias depuis le verger.
Bonjour mon grand.
Bonjour maman.
Oh, de vous voir comme ça réunis, ça me fait quelque chose. Hein. Même si vous n'êtes pas fichus de vous entendre tous les deux. Je vous revois gamin à tourner autour de la table aussi vite que vous pouviez. Pendant que moi, j'apportais le repas. Je marchais sur des œufs. Vous tourniez, j'avais peur de tout renverser. Ça vous faisait rire.
Pas très matinal, le frangin. Tu plaisantes? Levé depuis 6h, tu veux qu'on change de vie? Ah non, pour rien au monde. Hein.
Ton frère exporte son lait à l'international. Il traite avec le marché chinois.
Et les circuits courts? Non, mon lait part en coopérative laitière à Maronne pour faire du lait infantile chinois. C'est très français, hein. On a une entreprise Boursin à côté, mais eux, ils vont chercher le lait en Hollande.
Le lait français, il est nickel à cause des réglementations, donc il est distribué pour les autres. Et nous, en France, on préfère boire de la merde. Marie, je dis pas la vérité?
Bon, j'ai du boulot pour toi si tu veux. Traire les vaches, nourrir les veaux, nettoyer le robot. J'ai même une petite insémination artificielle à faire aussi.
Marie rit en voyant la tête décomposée de Mathieu.
Tu m'autorises à le prendre aujourd'hui?
Oh, demain et après-demain aussi, si tu veux. J'ai quasiment fini le dédoublage, je peux surveiller seul le verger.
Tu veux pas que je t'aide, maman? Oh, quel flemmard, ce type. Mais pour la vente, la comptabilité, l'administration...
La paperasse, c'est ta sœur qui gère, et très bien d'ailleurs.
Je sais.
On a peu de clients en ce moment.
Et ils deviennent de plus en plus chiants.
Faut qu'on lui raconte l'histoire des 5 centimes. On a augmenté nos prix de 5 centimes. Bah, forcément, tout augmente, les charges et j'en passe. Bref, une femme est venue avec une feuille, elle me dit « Vous avez augmenté vos prix, voyez, j'ai tout noté dessus. »
Mais elle la ramène pas au supermarché, cette feuille-là, hein? Ah bah non, hein.
Et puis il y a ceux qui veulent payer qu'un kilo sur les 1,4 kg qu'ils prennent, ceux qui, pendant la cueillette, prennent les plus beaux fruits et laissent tomber les autres. Je paie, je fais ce que je veux. Il y a moins de respect. Tu restes en août pour la cueillette avec moi?
Oui, j'ai pris un billet aller sans retour. Oh, tu te la joues poète!
Ça a commencé dès le réveil. Oh soleil, j'ai vu des gens mourir de faim et j'ai pleuré, des gens sont morts.
Je déclamais une prose d'Angela Duval.
Je déclamais, non mais...
Oui, c'est une paysanne et poétesse bretonne. Oui, je lis et j'écris de la poésie, si tu veux tout savoir, voilà.
Eh bien moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à t'entendre. Tu devrais le réciter à ton père tout à l'heure.
Merci. Oui.
Arrivée de la grand-mère, Hélène passe devant la table et s'en va directement à l'intérieur de la maison. Mireille, en voyant Hélène s'approcher, prend un nouveau journal sur la table et se met à le lire.
Bonjour, mamie! Ah, je crois que ce qui me plaît le plus dans notre famille, c'est l'enthousiasme qu'on a à se retrouver. Hein.
L'augmentation des températures moyennes annuelles favorise l'implantation des bio-agresseurs. Cette augmentation devrait rester modérée en Normandie au moins jusqu'en 2050, jusqu'à plus de 2 degrés maximum dans le sud de l'Orne.
Et notre capacité d'écoute aussi. Hein.
Hélène qui est revenue à Marie. Tu as réussi tes examens? Je n'ai pas eu les résultats de mes écrits encore. Et puis, il faut que je termine mon stage d'été parce qu'il compte dans ma note. Toujours pas de résultats, en plein mois de juillet. Oh, tu veux que je les appelle? Non, mamie, c'est gentil. Non, mais parce que c'est insensé quand même. Ils ne foutent rien, ces gens, dans les bureaux. On leur demande de corriger des copies, de mettre des notes, de donner des résultats. Mamie, si j'étais leur patron, ce serait une autre histoire.
T'as repris les études, toi. Tu voulais pas être instite. Non, Marie, c'est une femme de la terre. On ne l'enferme pas dans une salle.
Je vais arrêter de lire le journal, ça va m'angoisser encore plus. Bon, à tout à l'heure.
Elle embrasse sa mère, prend son sac à dos et s'en va.
Hélène, à Mathieu et Mathias. Vous n'avez pas des choses à faire, vous?
Elle a raison. Une pause est un court temps de récupération. Sinon, ce n'est plus une pause. Allez, au boulot. Viens, je vais te montrer ma ferme. T'as vraiment pas besoin d'aide, maman.
La mère fait un signe de tête, non.
On prend le tracteur? Allez, on prend le tracteur, allez.
Ils s'en vont.
Je dois t'appeler monsieur le propriétaire maintenant? Oui, c'est ça, c'est bien, monsieur le propriétaire, oui. Ça sonne bien.
Mireille et Hélène restent à table en silence. Mireille, je sais ce que tu viens me dire. Je ne veux pas en parler, alors on n'en parlera pas, point. Je ne te demande pas ton avis, Mireille, ni ta permission. Je t'ai laissé du temps, maintenant si tu n'es pas capable de parler à tes enfants, je m'en charge. Mais c'est à moi de le faire. Mathieu est arrivé hier soir, je n'allais pas l'accueillir avec toutes ces questions. Ton fils, que tu as laissé vagabonder pendant des années, je ne sais où d'ailleurs, hein, un sac sur le dos, une pièce dans la poche, même pas un matelas pour dormir. Tu te préoccupes de ton fils maintenant. Je ne te demande pas de me... Jamais je n'aurais accepté cela, moi. Une vie de vagabondage, de bohémien, sans travail, sans repère. Je n'ai pas choisi de mener ma famille comme la tienne. Ah ça, ça c'est sûr, hein. Sauf que tu as épousé mon fils et par conséquent mes valeurs, que tu le veuilles ou non. Je vais te parler comme à une mère. Mon fils, le mien, est en train de mourir à petit feu. Je le vois faiblir de jour en jour. Il ne tient plus debout ou à peine. Et moi, je ne peux rien faire pour lui, sauf aller à l'église, mettre un cierge et prier. Et quand je te vois, avec tes 10 kilos en moins, la peau sur les os, je me demande, comment allons-nous faire? Tu n'as pas la force nécessaire pour le soutenir et pour travailler seul au verger. Dans un mois, il y aura la récolte, la vente, les distributeurs à rappeler, les crédits ne sont pas remboursés. La situation est urgente, Mireille. Tu fais de ton mieux, je le sais, mais ce n'est pas assez. Il faut réunir Mathias, Marie et Mathieu et parler de l'héritage du verger. Tu ne leur laisses pas le choix, tu décides de ce qui est bon à faire, tu donnes tes instructions.
Mireille ne bouge pas.
Tu as 3 jours, sinon je m'en charge.
Mireille ne bouge pas.
Je vais réveiller Marcel.
Elle s'en va à l'intérieur de la maison. Mireille reste figée sur sa chaise. Pendant la voix off de la femme H.J., Mireille et Hélène continuent d'être éclairées. Elles jouent une succession d'actions silencieuses. 5 décembre 2021.
Il y a pas mal d'obscurité dans ce que je vais vous raconter, dans le sens que j'étais petite. C'est un souvenir de l'enfance que je vous livre là, des impressions opaques et floues. Je me souviens qu'on vivait tous dans la même maison. Ma mère, mon père, moi, mon frère, ma sœur. Il y avait aussi ma grand-mère et mon grand-père. Ça a duré de nombreuses années comme ça. Mes parents, ils se sont mis en mariage. Mais ma mère, elle avait aussi épousé les parents de mon père en même temps. Je ris, mais je ne sais pas trop si c'est risible ça. La cohabitation était difficile pour mère. Elle disait souvent « Je me sens pas à ma place ici ». Elle marmonnait à voix basse en travaillant, la tête baissée. Ma grand-mère ne la lâchait pas d'une semelle pour les travaux de la ferme, la gestion des repas, des enfants. Tout était passé en détail. Fallait que ça soit fait à sa manière, à elle. Et ma mère se sentait, comment dire, obligée de respecter ses volontés, même si elle n'était pas d'accord. C'était comme ça. Mon père, il disait rien. Il voulait pas d'histoire. Il disait « Les nanas entre elles, ça se chicane tout le temps. » Lui non plus n'avait pas vraiment son mot à dire. Est-ce qu'il avait le choix? Non, je ne crois pas. Il y avait un autre rapport de force qui se jouait, celui d'un fils face à sa mère.
Date projetée, 5 janvier 2022.
On appelle ça de l'asservissement, quand il n'y a ni liberté, ni égalité dans la relation. C'est de l'esclavage moderne. Moi, ma mère, elle m'a raconté ce qu'avait vécu ma grand-mère. Elle était du bétail, rien de plus. Aucun droit vis-à-vis de sa belle-famille. Aucun droit dans son couple. Faut pas oublier qu'avant 65, les femmes ne disposaient pas d'argent sans l'autorisation de leur mari. C'était hier. Mon grand-père était un homme violent et alcoolique. Il lui envoyait des patates chaudes sur le visage. Il la frappait devant ses enfants. Et elle, elle n'en parlait pas parce qu'elle était isolée en campagne. Et puis parce que la femme a toujours été considérée comme inférieure à l'homme, comme étant sa propriété, à sa disposition.
Scène 13, intérieur jour dans une maison. Une femme, Louise, 34 ans, est debout derrière une table, un texte en main. Regard au lointain. Trois autres femmes, Anaïs, 38 ans, Victoire, 26 ans et Augustine, 81 ans, attendent en file indienne à ses côtés.
Nous, femmes paysannes du département de l'Eure, avons décidé de nous réunir au sein du collectif FP27, femmes paysannes du 27, pour l'écriture d'un manifeste baptisé « Renouveau rural ».
Anaïs se place à côté de Louise, derrière la table, elle prend son texte. « Notre regroupement est une volonté de bâtir un élan démocratique juste, universel, social, et de lutter pour la terre et pour l'égalité et la dignité des femmes et des hommes du monde rural ». Victoire se place à côté de Louise et d'Anaïs derrière la table. Elle s'empare à son tour du texte. Il s'adresse à tous les agriculteurs et les agricultrices de France, mais aussi aux consommateurs. Augustine se place à côté de Louise, d'Anaïs et de Victoire derrière la table. Elle ne prend pas le texte, car elle connaît sa partie par cœur. Nous appelons à un sursaut collectif face au dérèglement que nous vivons dans l'exercice de nos métiers. Dérèglement provoqué par le capitalisme libéral globalisé, l'emprise des lobbies, la marchandisation de la nature.
Oui, Marie rentre. Tu sors, Marie. Je viens à peine de rentrer. Tu sors. Je n'ai participé à la correction du manifeste, mais ok, merci pour l'accueil. Elle s'en va.
Mais qu'est-ce qui te prend, Louise? Bon, tu restes, prends une chaise et installe-toi. Anaïs entraîne Louise dans une pièce à part, Marie s'assoit.
Elle sèche son stage, là. Tu veux l'encourager à continuer?
Mais cela ne te regarde pas. Et je te rappelle que ce collectif est ouvert à toute femme qui souhaite y avoir une voix active. Et c'est le cas de Marie.
Je ne l'empêche pas de faire partie du collectif, mais pas au détriment de ses études. Tu as appris pour son père?
Oui, AVC et paralysie générale.
Et tu ne lui dis rien?
Mais ce n'est pas en la sermonnant qu'on va l'aider. C'est en l'acceptant, sans poser de questions.
Je ne la rejette pas, mais j'aimerais quand même...
Bon, est-ce qu'on pourrait continuer la lecture du manifeste, hein? Moi, je dois retourner à la transfo dans une heure, moi. Augustine, pardon. Et on avait dit pas de messe basse au sein des réunions. Ça pourrit l'ambiance, hein. Oui, je comprends. Je reprends. Bon, je reprends. Le mot paysanne est celui que nous choisissons pour nous définir, nous, femmes de la terre.
Marie qui lève la main. Alors, pardon, mais... Quand est-ce qu'on a voté pour ce mot?
À la dernière réunion, tu n'étais pas là.
Ah, donc je n'étais pas là, je n'ai pas le droit de voter.
Bah non, Marie. Mais même si tu votais contre, le mot paysanne est majoritaire. En démocratie,
Vous vous reconnaissez dans ce mot, paysanne, vraiment? Je veux dire, je n'ai pas d'autre idée là, mais ça me dérange. J'imagine ma grand-mère en robe dans les champs, à trimer. Mais moi, je veux pas être ça, moi. Une image de la femme à la solde de son mari, obligée d'écouter, sans reconnaissance de son statut. Hé, Hélène! T'oublies pas de faire la soupe et de torcher les mômes en même temps, hein? C'est pas faux.
Exploitante agricole. Ah non, non, non. Ah là, c'est moi qui boycotte, hein. Pour la simple et bonne raison que nous n'exploitons pas la terre. Nous travaillons avec elle. Et ça fait partie du paragraphe 4, page 8, hein.
Ah, c'est mon passage préféré de l'importance de cultiver le vivant.
Merci.
Bon, qu'est-ce qu'on fait alors, là? Moi, je sèche, hein.
Bah, toi aussi, hein. Bon, on continue à lire, on débriefe et on recose de ce mot plus tard.
Et la commission du 18 juillet?
Aujourd'hui, on n'est pas prête, hein. On fera la prochaine.
Mais je pensais tout rédiger, envoyer ce soir.
Le plus important, c'est que ce texte nous ressemble, Louise. Il faut qu'il fasse sens pour nous, pour nous toutes.
Je sais, mais ça recule encore l'échéance de la parution. Si nous voulons être entendus, il faut publier ce manifeste.
Augustine reprend le texte. Heure projetée, 11h. Le mot paysanne est celui que nous choisissons pour nous définir, nous, femmes de la terre. Nous sommes des femmes singulières avec des histoires différentes et à nous toutes, nous rassemblons une diversité de métiers et de pratiques dans l'agriculture qui forment une richesse et nous rassemblent.
Noir, les femmes changent de position pendant le noir. Heure projetée, midi, lumière sur les femmes.
En tant que femmes, nous constatons trop souvent que notre parole est silenciée. Nous revendiquons à travers ce manifeste que les femmes et les hommes du monde rural jouissent de la même égalité et valeur.
Noir, les femmes changent de position pendant le noir. Heure projetée, 13h, lumière sur les femmes.
Nous souhaitons faire avancer l'intégration des femmes paysannes, mettre fin aux discriminations qui affectent nos vies quotidiennes. Nous défendons le droit à l'alimentation, l'agriculture paysanne, la défense de la biodiversité et du patrimoine culturel. Bon, moi je file au boulot, je valide tous les points. Vous me tenez au courant si vous faites des changements ?
Oui.
Ouais, tu me déposes ? Allez, viens. Bon, à la semaine prochaine. Elles s'en vont.
C'est très bien écrit. Synthétique, factuel, précis, sans fioritures, pas de pathos.
Et politique, militant aussi, c'est ça, c'est Louise.
Hein. Nous menons une bataille pour nous faire entendre. Bien sûr qu'il y a du militantisme. Qu'est-ce qu'il y a, Marie ? Rien, mais j'imagine la tête de mes parents quand ils liront le texte. Toi, tu as participé à l'écriture de ce brûlot. Que vont dire tes voisins ? Tu n'as pas honte ?
Il est temps de parler de notre réalité sur le territoire. Et tant pis si certaines personnes se sentent brusquées, hein. Nous, au moins, on ose dire ce que les autres pensent tout bas. Et puis, ta mère, et peut-être qu'elle ne te le dira pas par fierté, mais je suis sûr qu'elle sera touchée par ce texte. Il est écrit pour elle aussi.
Oui.
Et peut-être que ça ouvrira la porte du dialogue entre vous.
Je l'espère.
Bon, allez, moi j'y vais. J'enchaîne la comptabilité et les dossiers de subvention. Faire des calculs entourés d'enfants de 4 à 2 ans, joie et bonheur.
Ce sont les tiens, ne l'oublie pas.
Et je les aime, bien sûr. J'aimerais juste respirer un peu de temps en temps. Mais ça, c'est un autre sujet.
Qui devrait figurer dans le manifeste, d'ailleurs.
Anaïs fait au revoir de la main, elle part.
Louise à Marie. J'ai été maladroite tout à l'heure, désolée. Comment tu vas ? Je suis un peu perdue en ce moment. Si tu veux en parler, tu peux, tu sais. Il y a la paralysie de papa. On ne sait pas encore s'il s'en sortira à son âge. Le médecin dit qu'il faut rester positif et ne pas lui montrer de signes d'inquiétude. Mais comment faire ? C'est mon père, il me connaît par cœur. À la maison, on fait semblant que tout va bien, que rien n'a changé. Tout doit rester bien à sa place, rangé et compartimenté. Un peu comme les meubles, tu vois. Mais c'est faux, on se raconte une histoire. Et ta mère ? Maman, elle reste muette. Elle montre l'exemple d'une femme forte, mais je l'entends pleurer tous les soirs. Elle fume en cachette dans le verger. Je retrouve ses mégots cachés au fond du jardin. Je voudrais qu'elle me parle, mais quand je la prends dans mes bras, elle fuit, c'est frustrant. Et puis elle me critique tout le temps. Arrête de faire ça, Marie, à ton âge, t'es déjà mariée à ton père. Pourquoi on n'a pas de petits-enfants ? Tes frères, ils ne m'en donneront pas, mais toi ? Je ne suis pas ta mère, Marie, ni ta sœur. Alors, ce que je vais te dire a peu d'importance et tu en fais ce que tu veux. Je pense que tu devrais penser un peu plus à toi et te concentrer sur tes études. Quand on s'est rencontrés, tu étais fière d'aller à l'IHE et de mener un stage. Qu'est-ce qui a changé ? L'IHE, ça motivait au début. Il y avait une mission à faire en 3 mois, je l'ai faite en 3 jours. Parce que je ne traîne pas, moi. Je ne prends pas des pauses sur des pauses à raconter ma vie. On a un boulot à faire, on discute pas, c'est tout. Une fois, j'ai aidé une secrétaire dans son boulot parce que j'avais fini le mien. Qu'est-ce que tu fais ici ? Retourne avec les agriculteurs. Moi, je lui dis, je vais pas me tourner les pouces, et puis j'apprends des choses aussi ici. Il y a des frontières partout, pas d'entraide, des équipes de filles et des équipes de garçons. Ils voulaient m'embaucher, mais moi, je m'y sens pas à ma place. Ici, je suis écoutée, soutenue. On mène un combat qui me touche. Je suis une femme, je veux pratiquer l'agriculture, mais pas avec des valeurs anciennes. Et puis, je sais pas, je sais plus si c'est ça que j'ai envie de faire.
C'est-à-dire ?
Je veux dire, je ne me vois pas ailleurs, mais j'aimerais prendre le temps de choisir ce que je souhaite faire. L'élevage du bétail comme mon frère ou l'arboriculture. Et je sens bien que je n'aurai pas le choix. J'ai surpris une conversation sur l'héritage du verger. Maman ne peut pas physiquement reprendre le travail de papa, elle l'a dit. Mathias a son élevage. Mathieu, on ne lui posera pas la question parce que c'est Mathieu, le fils chéri, qui fait tout ce qu'il veut. Il reste Marie, la bonne et brave Marie.
Le smartphone de Louise sonne.
Il faut que je retourne à la ferme. On a la préparation du marché à faire, tu m'accompagnes ?
Louise range les chaises et la table, Marie l'aide.
Non, il faut que je rentre et que je parle de tout ça. Je ne veux pas continuer de mentir.
Louise prend Marie dans ses bras, elle est un peu étonnée.
Courage Marie, et si tu as besoin, appelle-moi. Oui, salut.
Louise et Marie s'en vont. Scène 14, intérieur nuit, dans la maison de Mireille, date projetée 16 juillet 2013, 19h. Mireille, Mathias, Mathieu, Hélène s'affairent à mettre la table dans un brouhaha joyeux. Mathieu apporte un fait-tout, Mireille le suit.
Ça sent bon, ça me donne l'eau à la bouche.
Mathias met la main dans le plat pour goûter.
Mathieu tape sur la main de Mathias. Non. Ben, j'ai faim. Le premier servi, c'est papa. À son père, en allant le chercher, j'ai fait une blanquette de veau.
Mathieu installe son père à table.
Le président est en place. Un petit verre de vin rouge. Oh, ben oui.
Oh, surtout pas, malheureux. Les médecins ont dit...
Mais on s'en fiche de ce que les médecins ont dit. Oh là là, hein, papa ? On les emmerde, les médecins. Oh. Voilà, faut savoir se faire plaisir dans la vie.
Mireille, tu reprends ton fils, s'il te plaît.
Tu lui mets juste un fond et tu rallonges avec beaucoup d'eau.
Ok.
Mais oui, crevez-le, mon fils, crevez-le.
Oh, mamie, c'est bon, on se calme, tout va bien.
Tu as mis de l'alcool dans ta blanquette ?
Bah, forcément, sinon c'est pas
bon. Oh là 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 là. Non, mais tu n'es pas obligée de manger avec nous, hein. Tu peux repartir si tu veux. Oh, certainement pas, ça te ferait trop plaisir.
Mamie, s'il te plaît. Oh, c'est l'heure des infos. Et pourquoi on n'allume pas la télé ?
Pas ce soir, profite un peu de tes enfants. Marie arrive sur le seuil de la porte, Mathieu la voit et s'approche d'elle.
Je peux te prendre dans les bras ?
Pourquoi faire ?
Parce que je veux plus que tu me fasses la gueule. Mais je peux pas effacer le passé, mais j'aimerais bien qu'on avance.
Je te pardonne.
Et je t'expliquerai tout ça quand on aura un moment ce soir, tous les deux. On fait la paix ?
On fait la paix.
Il s'enlace fort.
Je t'aime, petit con.
Mathias, depuis la maison, tape ses couverts sur la table. On a faim ! On a faim ! On a faim ! À son père, en lui servant à manger. Bon, allez, goûte-moi ça. Goûte-moi cette viande, papa. Production maison. Il n'est pas doué, ton fiston ?
Bah, tu l'as abattu aussi ?
Non, je traite avec les Richard.
Connais pas.
Et c'est le fils de Jérôme qui vient, tu te rappelles ? On avait fait l'abattage à la ferme une fois ensemble, même que tu voulais tirer.
C'est qui, les Richard ?
Un temps. Regard inquiet entre Mathias et Mireille.
Mange et dis-moi que c'est bon.
Seulement si ça l'est, hein.
Marie rentre, elle pose son sac à dos, elle reste debout. Mathias fait le service du repas. Faites la place à la travailleuse. Il faut remplir cet estomac qui doit crier famine. Faut que je vous parle. Je sais pas trop par où commencer. Je veux juste pas que vous vous énerviez, d'accord ?
Tu vas te marier. T'es enceinte.
Mais non. Je crains le pire. Quand tu prends cet air-là... Mamie, s'il te plaît, ne rends pas la chose plus compliquée. J'ai arrêté l'IHE il y a un mois. Je me sentais pas bien dans cette école. Je pouvais plus rester. Comme tu as arrêté tes études d'institutrice, je ne savais pas comment vous le dire. Avec ton AVC, papa, je ne voulais pas te faire de la peine. À toi non plus, maman. Alors je vous ai menti. Je veux pas non plus mon stage chez les Muniers, mamie.
Qu'est-ce qu'elle dit, là ?
Viens, je t'emmène dans ta chambre.
Mireille se lève et emmène Marcel dans sa chambre.
Maman ? Mais maman, je te parle, là ! On laisse ton père en dehors de ça. J'en étais sûre. Des résultats d'examen qui n'arrivent pas en plein mois de juillet. Ha ! Elle est belle, la jeunesse, hein ? Toi aussi, tu veux finir comme ton frère ?
Et c'est reparti.
Vivre au crochet des autres comme une moins que rien ? Quelle déception ! Non, mais j'avais tant d'espoir en toi, Marie.
Arrête, mamie !
Tu descends d'un ton, le petitot. On respecte les aînés ici.
Attends, c'est toi qui me parles de respect, là ?
Parfaitement. Mais les valeurs, ça ne signifie rien pour toi, hein ? Ça te passe par-dessus la tête. Quand je pense à tout ce que ta mère a accepté pour toi, a enduré...
Ouais, je rêve, là !
Un pourri, gâté, prétentieux et incompétent, voilà ce que tu es. Incapable de soutenir sa famille quand elle a besoin de lui. Monsieur prend la fuite, on claque la porte, merci, au revoir.
Ouais, Mathias, retiens-moi, je vais m'énerver. Ne rentre pas dans son jeu. T'as toujours voulu dicter ta loi chez nous. Avant, je ne disais rien parce que j'étais petit et parce que maman m'en empêchait. Elle me disait, ne fais pas ça, Mathieu, c'est ta grand-mère. Elle est comme ça, ça passera. Tu l'as toujours humiliée parce qu'elle n'était pas fille de paysan, parce qu'elle n'avait pas de terre à offrir. Toujours derrière son dos, à lui répéter qu'elle était inincapable. Elle s'est sacrifiée pour nous, pour le verger, pour papa. Par amour. Et toi, tu continues avec nous. Non, mais la blague.
Non, mais mamie, stop. Toi, la ferme.
Bon, allez, tu sors de cette maison maintenant.
Oh non, je ne partirai pas. J'ai trop de choses à dire, à vous dire.
Tu sors.
Je ne me tairai pas.
Mireille réapparaît dans le... désemparée.
Voyez votre mère, dans quel état vous l'avez mise. Il n'y a pas suffisamment de problèmes comme cela. Vous vous demandez, vous, comment elle tient encore debout?
Ah, parce que maintenant, ça t'intéresse, c'est ça?
Ne me nargue pas, insolent. Je m'en suis toujours souciée. Je ne pense qu'à ça. À mon fils... à votre mère, ou d'être non soldée, à la reprise de l'affaire. Car ce n'est pas votre mère qui pourra gérer ça toute seule, et vous le savez très bien. Et vous fermez les yeux, vous faites les autruches. Sauf Mathias qui enchaîne les allers-retours entre son exploitation et celle-ci. Ah merci. Tu veux faire de l'agriculture, Marie ? Ou tu veux encore tergiverser, changer de voie ? 28 ans, il serait peut-être temps de choisir, non ? Je sais ce que je veux faire, mais je cherche encore ma spécialité, c'est tout.
Et tu as le droit de ne pas savoir, moi je te soutiens. Oui, moi aussi.
Tu vas rester planté là sans rien dire, Mireille? Il est temps de parler de l'héritage du verger. On a réfléchi avec votre grand-mère. On s'est dit qu'il fallait que ce soit toi, Marie. Il faut que ça reste dans la famille pour limiter les pertes financières. Nous n'avons plus d'argent. Mais pourquoi pas Mathieu? Ton frère ne sait plus ce que c'est. Ce n'est pas contre toi, Mathieu, que je dis ça, mais je rejoins votre grand-mère. Il y a urgence. Prends-le comme un cadeau, Marie. De mon temps, on ne donnait pas de terre à une femme. Donc moi et mes choix, tout le monde s'en fout encore une fois. Hein. Ok, je me casse.
Marie, attends.
Laisse-moi. Elle s'en va précipitamment. Mathieu la regarde partir.
Mathieu à Hélène. T'es contente de toi, là? Tu jubiles. Qu'est-ce qui se passe, Mireille?
Ce n'est rien, juste le volume de la télé.
Ah, on peut regarder la télé maintenant. Mathieu prend sa veste, il sort de la maison, Mathias le suit.
Vous allez où?
Réparer tes bêtises. Ils sortent, se servent de leur smartphone comme lampe de poche. Marie! Marie! Marie!
Ils disparaissent. Hélène reste immobile dans la maison. Une vidéo d'un paysage de forêt en travelling défile. Marie marche de profil devant la vidéo. La voix off de la femme K est diffusée en même temps.
On ne sait pas s'aimer, ou on s'aime mal. Moi, je n'ai pas appris à aimer. J'étais éduquée à la dure, un cadre fixe, des règles. Il y avait des tâches à faire, enfant ou pas. Je voyais peu mes parents. Ils travaillaient toute la journée. Avec mes frères, on se débrouillait tout seul. On se faisait à manger. On se lavait. On préparait nos vêtements du lendemain. On n'avait pas d'histoire avant de se coucher. Pas de bisous. Pas de câlins. On devait dormir, ne pas faire de bruit. Ben, je le vivais pas mal. Ça faisait partie de mon quotidien, donc. Pouf. Tu ne te poses pas de questions. C'est comme si je dessinais un carré autour de toi. Et que je te disais, ce carré, c'est ta vie depuis l'enfance. Tu peux pas penser à un triangle, un rond ou une autre forme géométrique, puisque tu n'as pas connu autre chose. Ta vie, c'est ce carré. Ta représentation de l'amour, c'est ce carré. Et dans ce carré, on ne dit pas qu'on s'aime. Alors, quand j'ai eu ma propre famille, j'ai reproduit le carré. Parce que je savais pas faire autre chose, tu sais. J'ai été mariée. On a divorcé. Un carnage. Je ne savais pas l'aimer alors qu'il partait trouver de l'amour ailleurs. Un peu trop. On a eu un fils. J'ai peu de nouvelles de lui. Je m'entends pas trop avec sa femme. Alors, on ne se voit presque plus. J'ai deux petits-enfants. Je les ai des fois au téléphone. Mais à leurs âges, on ne pense plus aux vieux.
Marie s'arrête de marcher, le travelling se fige. Elle prend son smartphone et appelle Louise. Personne ne répond. Elle rappelle plusieurs fois. Lumière sur l'espace caravane. Louise fait la fête et danse avec le groupe des gens du voyage. Le groupe chante dans une langue étrangère, une chanson entraînante.
Scène 15, intérieur et extérieur en vie. Scène croisée entre Louise et Marie. Louise sort son smartphone vibré. Elle décroche et s'échappe à l'extérieur de la caravane.
Allô? Allô? Marie? C'est marrant que tu m'appelles. Je suis chez tes voisins, c'est plutôt bonne ambiance. Je te dérange? Laisse tomber. Non, tu pleures? Tu te souviens quand tu m'as dit « Si tu as besoin, appelle-moi » Oui. Je marche sur la D65, je sais pas où crécher. Ok, t'es où exactement? En direction de la 13. Je vois, tu restes où tu es, je fonce te chercher.
Elle prend sa veste, elle dit au revoir de la main à tout le groupe. Bah, tu nous quittes déjà?
Problème de dernière minute. Merci pour votre accueil.
Ah, tu reviens quand tu veux, Louise.
Salut. Le noir se fait sur la caravane. Bascule lumière. Louise avance doucement vers Marie. La pluie tombe. Elles se prennent dans les bras. L'étreinte dure longtemps. Elles disparaissent. Mathias et Mathieu réapparaissent sur scène avec leur smartphone en lobe de poche.
Marie! Marie! Marie, réponds, bordel! Marie! Bon, on rentre à la maison. Ne t'inquiète pas, elle a dû aller chez quelqu'un.
Scène 16, intérieur jour dans une maison. Collectif FP27, date projetée 18 juillet 2013, 10h. Bon, on ne va pas se mentir, on ne sera jamais prête pour la commission, c'est trop tard. Vous nous avez envoyé toutes les modifications que vous aimeriez faire. Il y a certaines propositions qui se contredisent, donc faut en débattre, voter, patati, patata.
La proposition 24, je ne la lâcherai pas, je le dis tout de suite. Hein. Non, on en discute juste après. Non, parce que je sens bien qu'elle ne sera pas votée. Et pourtant, c'est une des raisons pour lesquelles je suis là.
Bref, plutôt que de bâcler le travail, on va prendre notre temps pour le terminer, ce manifeste, et que ce texte soit entendu. Il faut qu'on parle de nous.
Qu'on fasse le buzz. C'est ce que dit toujours mon petit-fils.
Voilà, qu'on fasse le buzz, qu'on fasse venir, je sais pas moi, la presse, la télé, des journalistes. Bon, ça prend du temps, mais je pense que c'est nécessaire.
Alors moi, je connais quelqu'un qui bosse pour France 3 Normandie au JT de
13h. C'est très bien ça.
Bon, c'est pas une connexion directe. Hein, mon beau-père connaît le beau-père du journaliste. Ouais, enfin, tu connais personne, quoi.
Ouais, voilà.
Il y a 4 ou 5 personnes à passer. Le beau-père.
Ouais, non, mais bon.
On peut en parler à la presse locale aussi, hein. Je peux appeler le Démocrate Vernonnet, Paris Normandie, Vernon
ouais,
Direct.
On tente, bonne idée. Oh,
la radio aussi. Il y en a une qui s'appelle BPM. Donc...
Ah oui, oui, c'est bien ça.
Et on leur dit quoi? On va bientôt dire que les paysannes. Ce que les paysannes pensent de l'agriculture.
Non, pas paysannes.
C'est pas encore voté.
Non, qu'un collectif de badass s'est formé dans l'heure.
Ouais, c'est quoi une badass?
Bon, je t'expliquerai après. Non, que la révolution de l'agriculture arrive.
Que c'est les femmes qui la feront.
On va leur dire tout ça, mais avant, Marie a une super idée. Bah, vas-y, Marie, dis-leur. Y a rien de figé. Bah,
allez, Marie.
Je me disais qu'on pourrait peut-être faire des actions un peu coup de poing sur le territoire, en mode activiste.
Oh là, ça sent le sapin, ça. J'aime pas trop la violence, moi. Ah, j'ai donné, hein. Moi, mai 68, on manifestait avec des pancartes, il est interdit d'interdire. On montrait nos fesses à la police, j'ai plus l'âge, moi. Et puis, quand tu vois là où ça nous a menés aujourd'hui, politiquement... Moi, je ne me mettrai pas seins nus, hein. J'aime pas trop la nudité. Moi non plus, hein. Et c'est non à toute proposition d'un calendrier de nous en lingerie dans les champs. Non, moi j'ai déjà vu ça et je trouve ça réducteur
et
vulgaire.
Non, mais rien de tout ça. Juste des actions marquantes qui mettent en avant les inégalités des femmes agricultrices. Par exemple, une femme qui apprend à conduire un tracteur. On a toutes, je pense, subi la réaction d'hommes âgés ou pas en train de nous observer en ricanant. Elle va jamais savoir faire ça. Une bonne femme sur un tracteur, où va-t-on? Enfin, du sexisme ordinaire, j'en passe.
Maintenant que t'en parles, je n'ai jamais osé conduire le tracteur. À cause de ça, justement.
Ah, tu vois.
Et comme j'en ai pas chez moi, je peux pas m'entraîner.
Mais c'est ça qu'on va faire. Mais oui, on pourrait organiser un cours, une formation conduite de tracteur réservée aux femmes. On crée un événement, on communique l'info dans le journal ou sur les réseaux. On fait du boitage dans les communes. On mobilise tout le monde. Ouais.
Je peux faire les flyers. Je commence à maîtriser un logiciel. Bon, je suis pas graphiste, mais ça m'amuse bien de le faire. Oh, et tu maîtrises les réseaux sociaux aussi? Parce que moi, j'aurais besoin de créer une page pour mes fromages.
Et bim! Deuxième événement! Développer l'entrepreneuriat des femmes sans critères d'exclusion.
Et si je vous suis bien toutes les deux, attendez. On multiplie des actions en lien avec des propositions du manifeste et on termine en apothéose en dévoilant le texte dans son intégralité, idéalement à la télé.
Eh ben oui, c'est ça! Ce serait génial! Est-ce qu'on est toutes d'accord?
Oui, oui! Et... on commence quand?
Maintenant!
Ah oui.
Mais oui, on fait une liste de tous les événements qu'on peut proposer dans les 2 prochains mois. On n'est pas obligé d'être là en même temps, hein. On peut se relayer en fonction de notre boulot et j'ai une autre idée à soumettre qu'on peut faire tout de suite. On achète des feuilles, du papier, des marqueurs, de la colle, une brosse et on en colle sur les murs des communes des phrases importantes de notre manifeste. Pour un féminisme rural, oui!
Oh là là, ça sent le sapin, ça. Moi, ça me plaît! Mais c'est illégal, non?
Non, mais on fait ça la nuit, personne ne nous verra! Au pire, on met des cagoules, des perruques, des lunettes de soleil.
Oh oui, on se fabrique des costumes de justicière! Super héroïne!
Pas trop.
Je vous préviens, vous me mettrez pas en combinaison pailletée ni en tenue disco comme on fait dans les enterrements d'une jeune fille. Hein.
Allez, Augustine, on va s'amuser.
Non.
Je peux être astuce personnelle.
Non, sobriété et discrétion sont mes maîtres mots. Bon, allez, levons nos verres.
Elle sert de la bière à tout le monde.
Au collectif et à ces moments de dingue qui nous attendent. À nous. Et à nous, mais je le répète, pas de tenue bizarre. Sobriété
et discrétion sont mes maîtres mots. Voilà. Sur le claquement des verres, noir. Scène 17, extérieur nuit, dans une rue déserte. Date projetée, 20 juillet 2013, 2h du matin. Les femmes du collectif marchent en filadienne comme des espionnes, en faisant des petits pas et des grands gestes en silence. Tout est un peu trop surjoué. Marie, qui est la première, avance comme une chef de groupe. Elle porte toutes des tenues bariolées. Louise.
Mon body me gratte, j'ai chaud, ça colle.
Chut. Je suis trop excitée. Mais tais-toi, on va se faire opérer.
Augustine traîne du pied, on la découvre en tenue pailletée.
Je me suis faite piéger.
Marie donne des ordres aux autres en silence.
Ouais.
En formant des gestes amples, Victoire prend une banderole de papier et la tient avec Louise en hauteur. Anaïs prend une brosse et en colle l'affiche. Le public peut lire sur la banderole, elle est où la patronne?
Un agriculteur sur quatre est une femme, pour une perspective écoféministe. Le machisme est dans le pré, nous sommes là, nous ne lâcherons rien. Une retraite à 550 euros par mois, on en parle. La terre des femmes, elle est où la patronne? Vous avez peut-être déjà lu ce genre de phrase féministe dans les murs de votre ville. En Normandie, dans le département de l'Eure, elles apparaissent un peu partout depuis deux jours pour dénoncer le manque d'égalité des femmes agricultrices. Et elles provoquent le débat. Qui est à l'origine de ces collages? S'agit-il d'un groupuscule de femmes de la région? C'est la rumeur qui se propage depuis hier, suite au témoignage de Michel Munet, habitant de la commune de Pagneuse avec Saint-Surel.
Oh bah, il était 2h du matin, il y a eu un barouf terrible dans la rue, là. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai dit, ouais, ça suffit les bêtises. Et c'est là que j'ai vu des bonnes femmes bizarres, avec des cagoules sur la tête. J'appelle la police, j'ai dit. Bah, je les ai pris en photo. Et non mais, regardez.
Les femmes du collectif prennent une pose rebelle.
Ouais, elles sont parties par là en courant. Non mais t'es folle, t'es tarée. Oh, regardez-moi ça, toutes ces conneries. Il y a du papier partout à ramasser, là. Et c'est qui va faire le ménage, hein?
Au même moment, la création d'un collectif FP27 a vu le jour sur les réseaux sociaux, proposant des rassemblements clandestins pour les femmes agricultrices, dont on peut retrouver des traces sur le web. Des photographies avec des titres chocs.
Date projetée, 21 juillet 2013. Photo projetée d'un tracteur grandeur nature en campagne avec une banderole où est inscrit « Mon tracteur avec mon utérus ». Les femmes du collectif prennent une pause. Photo.
Date projetée, 23 juillet 2013. Photo projetée de la chambre d'agriculture avec une banderole où est inscrit 50% des femmes sur les listes électorales. Rejoins-nous. Les femmes du collectif prennent une photo et une pause.
Date projetée 24 juillet 2013. Photo projetée d'un champ avec une ferme, avec une banderole où est inscrit « Pas conjointe, pas soumise » pour en finir avec les sous-statuts. Les femmes du collectif prennent une pause photo. Victoire cherche à faire un doigt d'honneur mais n'y arrive pas.
Je sais plus.
Je suis là.
Elle s'est trompée de doigt.
Date projetée 25 juillet 2013. Photo projetée d'un marché avec une banderole où est inscrit « Tes remarques sexistes, mais réparties ». Les femmes du collectif prennent une pause photo. Louise montre à Victoire comment on fait un doigt d'honneur. Ça, on l'a déjà. C'était au-dessus. Oui, d'accord. Oui.
Une musique se fait entendre. Les femmes du collectif dansent en rythme sur le son. Au-dessus de leur tête, la phrase « groupuscule de féministes rurales recherchées » clignote. Scène 18. Intérieur nuit, maison de Mireille. Marcel, dans son fauteuil roulant, regarde la télé en arrière-plan. Mireille, Mathieu, Mathias mettent la table. Ils parlent entre eux, sans que le spectateur entende distinctement ce qu'ils disent.
Date projetée, 26 juillet 2013, 19h30.
La police mène actuellement l'enquête pour cadrer ces actions qui sèment le trouble au sein de la population. C'était Justine Fayard pour BSM TV. Marie!
Non, elle n'est pas encore rentrée, calme-toi!
Marie, là!
Marie, oh mon Dieu, oui, c'est elle! C'est bien elle!
Mathias et Mathieu se précipitent vers la télévision. Un groupuscule de féministes rurales recherchées. Oh, ça claque! Et elle envoie du lourd, la frangine. Mais c'est quoi ce délire?
Non, mais elle a perdu la tête.
Mais c'est. C'est pas Louise Dutney à côté d'elle, là? Où ça? Mais à droite, là, à droite. Avec le costume, non, je la reconnais pas. C'est tellement
non,
longtemps.
Mais si, elle habite Brélu, Route des Prés, elle est céréalière.
Mais non, je le saurais.
Je sais ce que je dis, je croise sa mère souvent au marché. Elle a une petite maison en pierre, mais elle vit dans une caravane.
Et que, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, toi?
Oh, mais de quoi tu te mêles?
Allez, donne-moi toutes les bagnoles, j'ai un problème de batterie avec la mienne. Pourquoi faire? Ah, pour aller chercher Marie chez Louise. Reste ici, j'y vais.
Mathias disparaît. Mireille le regarde partir depuis l'entrebâillement de la porte. Violette la rejoint. Mathieu et Marcel dans la maison ne bougent pas, comme des statues. Mireille à Violette. On va faire un saut dans le temps de 2 heures. Mathieu voulait changer nos habitudes. Faire une soirée cinéma pizza devant la télé. Il y avait les oiseaux d'Alfred Hitchcock sur Arte. Une prémonition d'horreur. Marcel aimait les thrillers américains. C'était pour lui faire plaisir. Moi, je pensais à Marie. J'espérais que Mathias la retrouve. La menace planait autour de nous, mais on ne la voyait pas encore. Le ciel était bleu, pas un nuage à l'horizon. Il faisait chaud. À 20h59, nous étions tous installés avec un plateau repas, les yeux rivés sur le générique du film.
Violette la suit, observe la situation de loin.
La lumière change. Une pluie tombe dans un ciel grisé. Une tension est palpable dans l'air. Bruit d'orage. Marcel avance doucement son fauteuil roulant jusqu'à la fenêtre. Mathieu et Mireille regardent la télé.
Oh, c'est pas bon, ça.
La pluie de grêle s'abat d'un coup. Mathieu va vers son père.
Papa, le film a commencé. Allez, c'est pas le moment de partir. Oh putain, merde. C'est pas bon, ça.
Qu'est-ce qui se passe?
Mireille rejoint Marcel et Mathieu à la fenêtre.
Oh mon Dieu!
Elle se met les mains sur la bouche pour retenir un cri noir sur espace maison. Scène 19, intérieur et extérieur nuit chez Louise. Mathias frappe à la porte de la caravane.
Louise répond depuis l'intérieur de la caravane. Ouais, j'arrive!
Bonsoir, désolé de te déranger si tard, mais je cherche ma sœur Marie. Je suis son grand frère.
Non, mais je sais qui tu es, passe les présentations.
Est-ce que je peux lui parler?
Marie, est-ce que tu veux parler à ton frère?
Ma mère t'a reconnu à la télé, alors je savais pas que tu...
Lequel? Le grand? Non! Désolée, elle a dit non.
Elle repart dans la caravane.
Il est pas mal ton frère. Il est célibataire si tu veux.
Marie, allez, tu vas pas me snober quand même! Je t'ai rien fait, merde!
Marie sort de la caravane énervée. Louise la suit. Mais qu'est-ce que tu fais là? Non, laisse-nous, Louise. Louise s'en va en dévisageant Mathias.
On s'inquiète pour toi.
N'importe quoi.
Mais je te jure, je veux juste savoir comment tu vas. Je te demande pas de revenir. Tu fais ce que tu veux.
Noir sur la caravane.
Scène 20, intérieur nuit, maison de Mireille. Le père est toujours à la fenêtre, le regard à regarder la grêle qui s'abat de plus en plus fort. Mathieu et Mireille, à l'arrière, font les 400 pas.
L'assurance grêle, on ne l'a pas payée cette année.
Quoi?
On a eu une petite grelette en 2012 qui nous abîmait toutes les variétés à peau fine. L'assureur est venu pour le dossier et ça n'a pas fonctionné car il n'assure que le fruit, pas le début du fruit.
Mais un fruit, qu'il soit en pousse, petit ou mature, c'est un fruit.
Non, Marcel, pas pour eux. Donc depuis, on a arrêté. C'était 9 500 € l'année.
Oh putain. Ah. On est foutus. Mais on peut mettre des bâches sur les pommiers, on a ça. Est-ce qu'on a des bâches quelque part,
non.
Des filets, je sais pas, un truc.
Ça ne servirait à rien, non mais regarde la taille des grêlons.
Mais est-ce qu'on a quelque chose?
De la grêle en plein mois de juillet. Non mais est-ce que c'est normal?
Noir sur l'espace maison, scène 21, intérieur et extérieur nuit chez Louise. Mathias écoute Marie en silence.
Non mais j'ai trop de colère, J'en veux à maman, à sa façon de se ranger avec grand-mère. La famille va mal, c'est toi, Marie, qui va porter ce poids, que tu le veuilles ou non. On a choisi pour toi, c'est comme ça. Mais je suis qui, bordel? Un pantin? Une poupée qui doit obéir aux règles familiales? Qu'on peut contraindre et culpabiliser? C'est parce que je suis une femme? Je dois être dans le sacrifice, c'est ça? Non, mais moi, je veux vivre, Mathias, tu m'entends? Pensez à moi, pas pour les autres. Pas pour le bien-être des autres, toujours avant le mien. J'ai assez donné. Toute ma vie n'a été tournée que pour votre bonheur. Ce que je veux n'a jamais eu d'importance pour eux. Non, mais je me rends compte aujourd'hui. Tu peux leur dire tout ça, Mathias, c'est fini. Il n'y a plus de mari.
Noir sur l'espace caravane. Scène 22. Intérieur nuit dans le verger. Mathieu part dans le verger affrontant la pluie de grêle avec une bâche en plastique trouvée à la maison. Il est ralenti par le vent et s'engouffre sous la bâche. Mireille le rejoint,
arrête, affolée. Arrête, on ne peut plus rien faire. Rentre, je te dis.
Elle trébuche à côté de Mathieu. Ils se protègent tous les deux sous la bâche. La tempête s'arrête soudainement. Le père, qui était assis dans son fauteuil roulant à la fenêtre, se lève tout doucement et marche, péniblement. Il avance en direction du verger. Il fait quelques pas, puis s'effondre sur le sol, noir sur l'espace verger.
Scène 23. Extérieur nuit dans le verger. Un camion d'ambulance est dans le verger. Des soignants s'affairent autour du corps de Marcel.
Il est en arrêt cardiaque depuis 6 minutes.
On le perd. Monsieur Maillard, restez avec nous.
Je lui ai fait un massage cardiaque.
Depuis combien de temps?
4-5 minutes, je sais plus.
À quelle heure a-t-il perdu connaissance?
Papa! Papa!
Monsieur Maillard, est-ce que vous m'entendez?
On lui met une perte d'adrénaline.
Ok.
Branchez le défibrillateur.
C'est fait.
Papa!
Reculez, s'il vous plaît. Chargez. Chargé. Chargé.
Heure du décès.
21h42.
Scène 24. Intérieur jour, dans un funérarium. Date projetée, 28 juillet 2013. Marcel est allongé dans un cercueil. Un drap recouvre son corps. Mireille et Mathias se tiennent à ses côtés, en lui tenant la main. Le groupe des gens du voyage interprète un chant de deuil dans une langue étrangère. Marie, Louise, Anaïs, Victoire et Augustine entrent. Marie rejoint sa mère et son frère. Un peu plus tard, sur le champ, Mathieu et Hélène font leur entrée. Hélène, en pleurs, serre dans ses bras ses petits-enfants. Violette arrive et contemple avec distance la scène, avec un carnet et un stylo. Elle se place à côté de Mireille.
L'homme que j'aimais pendant 39 années me quittait. Tout volait en éclats. Un chaos total. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter de battre aussi, à la vue de son corps froid et inanimé. Quand la vie s'acharne et ne te laisse aucun répit, pourquoi vivre? Comment vivre? Où trouver la force? J'avais déjà songé à cet instant. Qui de nous deux partirait le premier? Ce sont des sujets qu'on évite. Des cauchemars qui te hantent et qui grandissent à mesure que le temps passe. C'est la dure loi de la vieillesse. La mort, tu sais qu'elle fait partie du processus de la vie. Elle est inévitable. Petite, j'en voulais même à mes parents de m'avoir mis au monde, sachant que j'allais mourir. Pourquoi me faire naître et supporter pareille souffrance?
Dolce mio mal de, dolce pan.